Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.
La Relève, un lundi sur deux à 18h, sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Bonjour, faut-il vous rappeler que La Relève, c'est une semaine sur deux, une interview de 30 minutes avec un nouveau talent. Surtout que ce soir, ils sont deux et que l'émission a duré 45 minutes, donc il n'y a pas de règle. On va parler ce soir de meurtre et des États-Unis. Mes invités sont auteurs et autrices de polar. Marine Béliard, bonsoir. Vous êtes l'autrice de Queen in New York aux éditions Rivage.
Bonsoir Christophe.
Avec nous à distance, normalement, il y a une autre personne qui porte un très joli prénom, Christophe Pénalan. Bonsoir. Il n'est pas là. Eh bien, tant pis. Il est l'auteur de Eden, l'affaire Rockwell aux éditions Viviane Ami. Il va arriver tôt ou tard, j'espère. Ça fait partie des aléas du direct, hein. C'est comme ça qu'on dit ça. Alors, quand j'ai eu l'idée de vous réunir ce soir, il va arriver un moment ou un autre forcément, c'était d'abord parce que vous êtes tous les deux des auteurs qui écrivent en français, qui ont choisi de situer leurs histoires aux États-Unis, New York pour vous Marine, et la Californie pour Christophe qui n'est pas là. Et pour commencer, je vais vous demander quel était votre rapport avec les États-Unis.
Alors en fait, moi c'est vraiment la fascination des artistes, donc essentiellement effectivement à New York dans ces années-là, et c'est ça qui m'a en fait amené à situer l'histoire vraiment dans cette ville, complètement différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense que cette ville a beaucoup changé, et c'est ça qui m'a intéressé, c'était d'aller creuser, d'aller me mettre, faire un voyage dans le temps en fait.
Alors à l'époque, c'est les années 70.
Ouais, ça commence, on retrouve les personnages à partir, ils arrivent en 68-69 à New York, jusqu'en 1989 en fait, qui est finalement le début du roman, et on va remonter le fil de leur histoire.
Comment vous décririez l'Amérique des années... Ça veut dire que, mis à part ce livre-là, vous n'écrirez peut-être plus jamais sur les États-Unis ?
Alors en fait, j'ai fait un premier roman qui se passait justement à Los Angeles pour une partie de l'histoire. Et c'était vraiment ça qui m'a donné envie d'aller voir un petit peu le rêve américain de ces époques-là, qui se passait aussi autour d'un peu d'une idée d'une rockstar. Donc là, j'ai été plus loin, je pense, qu'avec le Queen in New York, en créant un vrai groupe comme un vrai groupe de musique. Et peut-être que oui, après, j'irai voyager sur d'autres continents.
Alors comment vous décririez le New York des années 70, cette ambiance culturelle pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas à l'idée les noms que d'autres ont?
Oui, alors moi, je pense que c'est l'effervescence de la ville, c'est les rencontres avec les personnes, c'est le lieu où on peut sortir. Et à l'époque, on est dans des clubs un peu underground, il y a toutes ces personnes qui vont devenir très célèbres. Je pense à Blondie, Patti Smith, mais qui finalement à l'époque traînent toutes ensemble et commencent à être célèbres petit à petit, jusque évidemment le décollage dans les fin 70-80. Mais c'est vraiment une sorte de proximité où on sort et on côtoie toute cette faune. Et j'ai échangé en fait pour ce livre, j'ai échangé avec des personnes en fait qui m'ont donné des témoignages.
Oui, parce que vous êtes suffisamment jeune pour ne pas l'avoir connu cette époque.
C'est ça qui était un petit peu compliqué. Alors évidemment, avec l'outil d'internet, on se plonge, on trouve des images, même des vidéos. Je pense aussi BGB ou des photos. Voilà, on peut imaginer. Mais moi, ce qui était important, c'était d'avoir le témoignage des personnes qui l'avaient vécu. Donc, j'ai eu quelques personnes qui ont eu la gentillesse de témoigner. Et donc, voilà, une personne que je remercie encore, c'est Alain Bizos, qui est donc photographe, qui a créé notamment Magazine Actuel, Libération. Et lui, en fait, à l'époque, dans les années 70, il était l'assistant de l'artiste contemporain Armand. Et donc, il a vécu dans ce milieu artistique et il a côtoyé, il croisait Andy Warhol, Blondie. Et il a eu la gentillesse de me raconter pas mal de petites histoires de soirées, de rencontres avec ces gens. Et ce qu'il m'a dit qui était assez, justement, je trouvais ça excitant, c'est qu'il me disait, on faisait plusieurs soirées en une, en fait. On allait on traînait avec Andy, puis après on se retrouvait avec d'autres personnes. Il a croisé Bowie. Donc il y avait ce côté, les stars étaient assez faciles,
Il y a aussi ce club qu'on voit sur la couverture, le CBG, alors j'ai essayé de le dire en anglais, qui est quand même pas mon fort, tous les auditeurs le savent depuis le nombre d'années que ça dure, le CBGB.
Oui, c'est ça.
Alors c'est quoi le CBGB?
C'est le lieu où un petit peu le mouvement punk rock est né en fait à New York, et donc pour nous, il y a les Ramones, enfin il y a plein de groupes dont voilà d'autres comme Patti Smith, Blondie, ils sont tous passés par là. C'est un club qui est assez on va dire qu'est-ce que ça sent, bah ça sent la sueur, la transpiration, l'urine, on est là, c'est le rock, enfin c'est un peu trash, et en même temps c'est là que voilà ces groupes vont émerger, et il y a une sorte de créativité un peu folle en fait dans ces lieux-là.
Ça aurait pu se passer au Palace, votre histoire ?
Ah bah oui, tout à fait, je pense. Après, peut-être... D'ailleurs, Alain Vizos m'a montré ses photos du Palace. J'ai eu droit à quelques photos comme ça, qu'il n'avait jamais publiées hein, quand on parlait des ambiances de club, puisqu'il m'a aussi montré des photos de l'époque du CBGB, du Max Kansas City, et avec des photos, par exemple, de Blondie avant qu'elle soit connue. Donc, on feuilletait un peu les photos. Il me dit « Ah, mais je crois que c'est Blondie. » On retourne, il m'avait noté en petit. Il me dit « Bah, je ne me rappelais plus de cette photo donc, au tout début. » quoi. Donc, effectivement, le Palace, oui. Je pense que c'est un petit peu la même ambiance.
Et c'est d'abord parce que vous aimez cette musique-là ?
Alors, j'aime, oui. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, je suis. Je pense que c'est vraiment David Bowie, l'accroche de tout ça, alors que c'est pas un New-Yorkais, mais c'était le côté, voilà, ce qui représente le genre, en fait, ce côté féminin, masculin, ce côté rock, ces vies un peu hors cadre. Et bien sûr, bah, je suis fan d'Iggy Pop, Lou Reed, donc voilà, toute cette petite bande qui m'a toujours fascinée. En fait, il y avait les disques aussi chez mes parents. Je pense que ça remonte aussi à l'adolescence, dans les années 90. Je découvre ces groupes. À l'époque, moi, j'ai 15 ans, 20 ans. Et en fait, ça me paraît hyper loin, les années 70. En réalité, voilà, c'était très proche, mais ça me fascine. Et je pense que déjà dans les années 90, cette ambiance, cette parenthèse un peu enchantée, enfin voilà, quelque chose pour nous qui ne l'avons pas vécu, c'est encore plus fascinant.
Je ne sais pas si Christophe Pénalan est avec nous. Non, je ne crois toujours pas. Alors, on va continuer, on va enchaîner, c'est pas grave du tout. Est-ce qu'il y a, quand on écrit, comme disent les Américains, un je ne sais quoi qui rend l'écriture d'un polar un petit quelque chose d'amusant en plus, de rajouter
Oui, parce qu'au départ, j'étais pas forcément partie sur un polar. Je pense que les premières scènes, c'était vraiment... au début du livre, ça commence par une fausse interview Rolling Stone. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui ont cru que c'était une vraie, qui m'ont demandé quand c'était où on pouvait la trouver. Donc, c'était plutôt ça, le groupe de rock, ce personnage de rockstar qui va un peu se brûler les ailes. Donc, je suis partie là-dessus. Après, ça se situe à New York dans ces années-là. Moi, je suis absolument fan de plein de films comme Taxi Driver, Serpico, La French Connection. Et du coup, je trouvais que faire un polar avec ce flic déchu, aussi très cabossé, qui va essayer de remonter le fil pour retrouver ce qui s'est passé. C'était un bon outil, un bon prétexte pour se plonger dans cette histoire, avec évidemment la vie nocturne, la vie difficile des flics à l'époque, qui vient en fait illustrer cette ville de New York très, très difficile.
Il y a aussi cette histoire de la rockstar qui est devenue une sorte d'hyper bourgeoise qui habite sur la 5e avenue avec vue sur Hyde Park.
Oui, c'est ça, je me suis
dit. Donc on peut se demander, quoi, c'est où, en quoi, quand, en tout cas au moment où commence le roman, en quoi elle est encore... Une icône rock.
Je pense que c'est comme certes beaucoup qui ont, dans les années 80, bon, même David Bowie, je pense qu'ils sont tous passés par un moment hyper mainstream et du coup, voilà, on se perd un petit peu. Elle déménage, elle se retrouve là parce qu'elle quitte aussi son quartier, elle avait envie de changement. Et oui, c'était un peu aller jusqu'au bout, aller au sommet de sa gloire, mais finalement, elle est loin de ses premières années un peu trash.
Alors, tout c'est votre deuxième roman, tout tourne autour de cette reine de New York qui donne le titre au roman, hein, je rappelle, A Queen in New York aux éditions Rivage, et pour être sûr de ne rien divulguer, malgré moi, je vous laisser raconter qui est cette Elva.
Ah oui, alors Elva, c'est la chanteuse du groupe A Queen in New York, effectivement, donc elle a monté son groupe dans les années 70, et on la suit en fait dans cette gloire qui va arriver finalement assez vite, et autour d'elle en fait gravite tout un petit groupe d'amis, dont... Joe, l'ex-flic déchu qui est devenu détective privé, qui était très proche d'elle. Et en fait, on va suivre ce petit groupe d'amis avec leurs histoires d'amitié, d'amour, leurs secrets. Et finalement, Joe, en remontant le fil de l'enquête, va dévoiler certains secrets petit à petit de leur histoire commune.
Alors, j'ai un peu lu dans ma vie de littérature américaine, et sans trop en dire, je trouve que vous avez développé quelque chose de très bizarre, un motif balzacien dans votre roman, parce qu'on a peu l'habitude de cette bande de copains qui ont grandi en province et qui partent à la New York. On connaît le Rastignac qui dit « à nous deux Paris », mais vous, c'est « à nous deux New York ».
Oui, ben oui, moi je me rappelle, après moi c'est à ma petite échelle, moi je viens aussi d'une ville qui est en Bretagne pas si grande, effectivement j'ai commencé à Rennes après mes études, donc déjà c'était une ville où il se passe des choses, j'y étais dans les années 90, le rock, les transmusicales, etc. Donc il y avait un côté, on est un petit groupe, on commence à sortir, à faire la fête, il y a une sorte de magie qui s'opère et en plus on découvre plein de gens, la vie nous appartient en fait. Donc c'était un petit peu l'idée, et puis New York ça m'a toujours fascinée, moi j'y suis allée pas dans ces années-là, malheureusement, mais je trouve que c'est une belle ville. Enfin, maintenant, c'est autre chose. C'est toujours une source d'inspiration. Mais à l'époque, moi, je suis complètement fan, quoi. Je me rappelle de voir des documentaires. Patty, j'aime bien dire cette phrase qu'elle racontait quand je suis arrivée à New York. Voilà, au milieu de toute cette crasse, cette confusion, j'ai trouvé un monde féerique en moi. Donc ça, c'est vraiment le côté... la ville l'a révélé en tant qu'artiste, en fait. Je pense qu'elle, et je pense que voilà, tous ces artistes, à l'époque, il était inspiré par ça. Enfin, voilà, pour Lou Reed, par exemple, aussi, on voit bien que les bas-fonds et les histoires glauques, enfin voilà, il y a quelque chose.
Ouais, et puis, il y a toute cette énergie autour d'Andy Warhol, La Factory, oui, tout voilà. Ce monde-là, oui, qu'on croise.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai repris un peu voilà, plein de personnages. Bon, je n'ai pas pu tous les mettre, mais évidemment, mon petit groupe d'amis va évoluer, il va sortir. Et puis, je voulais faire que ce soit un peu simple. Enfin, voilà, comme on m'a conté, qu'ils arrivent en soirée, ils croisent un tel, ils vont dans une séance photo, bah, enfin, voilà, il y a Divine ou il y a d'autres. Voilà, c'est un peu.
Elle a toujours voulu être chanteuse ou elle le devient un peu par hasard?
Elle a toujours voulu, puisque sans dévoiler, dès son adolescence, elle joue de la guitare, elle a envie de chanter. En fait, elle a envie de s'exprimer à travers ça. Et elle le cache un petit peu au début à ses amis. Et je pense que c'est le chemin qu'elle souhaite. C'est pour ça qu'elle monte à New York et finalement, elle va réussir.
Alors, j'ai dit qu'il y avait quelque chose d'original qui était là. Christophe Pénavin est avec nous, vous êtes là?
Ah ben non. Oui, je crois que je suis là, vous m'entendez?
Oui, parfait. Bonjour, bonsoir. Merci
bonjour, d'être là. Bonjour, bonsoir.
Alors, on a commencé sans vous, malheureusement, avec Marie. Enfin, oui,
je vous
malheureusement,
en prie.
Avec Marine Béliard. Non, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Et je m'étonnais du fait que l'une et l'autre, vous aviez choisi d'écrire un polar, un roman noir qui se passe aux États-Unis. Et je demandais donc à Marine quel était son rapport à New York. Et j'avais envie de vous demander, vous, quel était votre rapport à la Californie, qui est le décor? Est-ce que vous connaissez intimement cet endroit? Est-ce que c'est un des endroits où vous êtes allé ou c'est complètement une Amérique fantasmée?
Alors, c'est un peu tout à la fois, puisqu'il se trouve que quand j'ai écrit donc ce roman, qui est mon premier roman, Eden à Farogwell, je n'étais pas du tout allé en Californie avant d'écrire ce livre. Je m'y suis rendu l'été dernier pour des vacances. Et il se trouve que finalement j'ai retrouvé c'était assez marrant de retrouver en fait une région que j'avais fantasmée puis décrit dans un livre, de découvrir certaines choses que qu'on avait plus ou moins fidèlement retranscrit dans un bouquin, quoi. Donc j'ai fait ça dans le sens inverse et c'était plutôt marrant en fait comme situation.
Ça veut dire que vous êtes documenté aujourd'hui, j'imagine, via Internet, parce que pour tout vous avouer, en lisant votre livre, je regardais en même temps sur Internet les endroits, parce qu'au début je pensais que c'était une fausse ville, Bakersfield.
Non, en fait c'est une vraie ville. En fait c'est une ville d'une bonne importance, hein, qui se situe dans une vallée entre les grandes villes californiennes, donc San Francisco et Los Angeles. Elle fait partie des cinq plus grandes villes de Californie. Et donc, c'est une vraie ville qui fait partie des villes les plus sûres des États-Unis, pour la petite histoire. Et donc, le fait que se déroule un drame, parce que c'est un drame, hein, qui est raconté dans ce livre, c'est un peu prendre le contre-pied, en fait, de ce côté-là, ce côté un petit peu paysage enchanteur, le soleil, la Californie comme on s'imagine, avec des palmiers, etc. C'était explorer les zones d'ombre en fait d'une ville qui finalement représentait tout l'inverse.
Et je reviens à la question que je posais, je suis désolé, hein, tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un plaisir particulier à écrire un polar américain? Est-ce que on se place dans une lignée d'auteurs? Pourquoi votre histoire, vous auriez très bien, sans trop en dire pour l'instant, et même après on n'en dira pas trop, mais il y a la question des États qui joue un rôle dans votre roman, dans votre récit, mais vous auriez très bien pu raconter la même histoire en Europe, par exemple, avec, là il y aurait eu d'autres problèmes qui sont liés à la maîtrise des langues, mais on va dire, allez, entre... est-ce qu'il y avait un plaisir particulier, encore une fois, à écrire un polar américain?
Effectivement, ça développe l'imaginaire, c'est voyager soi-même quand on écrit ce roman, et puis faire voyager le lecteur. Et puis en plus, dans l'inconscient collectif, les serial killers, les disparitions, on s'imagine plus facilement ça, sans doute, aux États-Unis, même si c'est loin de chez nous, parce que justement, il y a ce côté distant qui fait que On se dit que ça peut pas nous arriver à nous. Voilà, donc c'est vrai que bah, les grands tueurs en série, etc. Ils sont plutôt connus pour être américains en tout cas. Et oui, voilà, c'était. Moi, j'ai baigné dans une enfance où je consommais beaucoup de films américains, de thrillers, des films comme Seven, Usual Suspect, LA Confidential. Donc voilà, c'est vraiment dans cette veine-là, en fait. J'ai imaginé ce roman comme un livre, comme un thriller américain.
Et tout à l'heure, votre alter ego du jour, Marine Béliard, nous disait que elle avait grandi à Rennes, qu'elle avait fantasmé le rock les années 70. Est-ce que la scène new-yorkaise, est-ce que vous aussi, cette période-là vous intéresse? Alors, celle qu'elle a étudiée, puis elle, je lui demanderai si les serial killers californiens l'inspirent. Mais vous d'abord, est-ce que vous avez aussi des affinités avec cette scène new-yorkaise rock des années 70?
Bah, New York, c'est une ville que j'ai visitée en même temps que la Californie l'été dernier. Donc avant, je n'avais pas forcément de lien avec cette ville, même si elle me faisait beaucoup rêver. Et il se trouve que moi j'ai adoré. Peut-être pas entrer dans les détails justement de cette scène rock, parce que là on est sur un sujet vraiment très différent, même si voilà, il y a cet esprit un peu grandeur et décadence hein, dans Los Angeles, ses alentours, etc. Mais il se trouve que moi je suis breton également. On a ce point commun avec Marine. Effectivement, voilà, c'est.
Je préfère exprès. Hein.
On est breton, mais en tout cas ça nous empêche pas du tout de parler de des États-Unis, de se projeter sur une histoire qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et de s'évader un petit peu en même temps que le lecteur.
Et vous, Marie Béliard, vous rêvez de la Californie ou pas du tout? Vous êtes restée à New York?
Moi, je suis pas allée en Californie, mais j'ai visité New York. Après, effectivement, dans mon premier livre, il y avait quand même quelques scènes qui se passaient en Californie. Donc moi, c'était un peu la période Manson, voilà, 69, 68, enfin un petit peu, voilà, et début 70. C'est pareil, c'était assez fascinant sur le côté, comme on dit, effectivement, grandeur, décadence. Il y a quelque chose dans l'excès, dans le, voilà, qui je pense, qui était propre à cette époque-là, même si ça existe toujours, mais vraiment avec quelque chose de particulier sur, voilà.
Alors, Christophe Penellan, on découvre dans votre roman un inspecteur qui s'appelle Dwight, je ne vais pas arriver à dire son nom, Dwight Myers, et qui vient d'arriver donc à Baskerville, Californie, quand une petite fille qui s'appelle Eden disparaît. Et je vous laisse raconter un peu la suite, parce que là encore, moi, je ne veux rien divulguer, donc je ne peux pas en dire
oui,
beaucoup
c'est
plus.
Ça, bah, le problème du livre, c'est qu'on peut, voilà, on peut pas aller trop loin dans le livre sans révéler les détails, mais en fait, c'est une disparition. Donc, c'est Eden qui a 11 ans qui va disparaître en rentrant de l'école. Et cette disparition va entraîner tout un tas d'événements voilà, ça va être une réaction en chaîne. En fait, il va y avoir plusieurs autres disparitions de fillettes qui vont être signalées dans la banlieue de Los Angeles, et vont suivre également des meurtres assez mystérieux. Et donc, Dwight Myers, qui est un jeune inspecteur, va être épaulé de Buddy Holcombe, son adjoint à Bakersfield, alors qu'il pensait arriver à Bakersfield pour fuir les problèmes de Los Angeles, puisqu'il vient du prestigieux LAPD, la police de Los Angeles. Et c'est tout l'inverse qui va se produire.
Alors, ils ont un point commun tous les deux. Enfin, pardon. Votre héros et celui de Marine Béliard ont un point commun, c'est que ce sont des policiers, j'ai envie de dire des hommes. On a beaucoup dit ça de la littérature des années 2000, on ne m'en parle plus trop. C'est un peu des garçons sensibles, quoi. Ils ont tous les deux des fragilités. Le vôtre, Marine Béliard, a pété les plombs quelques années avant. Et le vôtre, Christophe Penellan, est quand même. On pense beaucoup à cette phrase, et voilà, le nom m'échappe, qui dit « Ne me secouez pas trop, je suis plein de larmes ». Christophe Penellan.
Oui, tout à fait. je comprends ce que vous voulez dire. Alors, il fallait en fait douter avec ce flic. Il ne fallait pas que ce soit un super flic qui ait réponse à tout. Il fallait quelqu'un qui nous ressemble, qui soit plein de doutes, de peine aussi, parce qu'il revient d'une rupture douloureuse. Il a une petite fille également, donc forcément l'histoire qui l'affaire sur laquelle il travaille trouve un écho particulier en lui. Et ouais, il fallait en fait justement voir l'histoire avec l'affaire avec ses yeux, avec les yeux de ce jeune inspecteur qui est profondément humain en fait, hein, qui éprouve des sentiments amoureux, de la mélancolie et voilà. Je trouve, il a son pendant flic qui va Brad Rosier, un inspecteur de la police d'État de Californie qui va le rejoindre ensuite et qui sera un petit peu tout son opposé en fait.
Mais quand vous dites il fallait, parce que c'est pour la narration ou c'est parce que c'est le personnage qui vous intéresse, vous aviez envie de raconter l'histoire de ce personnage-là?
C'est un peu des deux, c'était plutôt un choix parce que moi je l'imaginais comme ça. Mais à la fois, c'était une histoire tellement surprenante et rocambolesque, en tout cas comme je l'imaginais, que le fait de mettre en scène un super flic qui est réponse à tout allait être contre-productif en fait, je pense, pour le récit. Et il fallait vraiment que cet inspecteur nous prenne avec lui par la main en fait, et qu'on soit avec lui dans la voiture, dans la Ford noire et blanche, pour suivre cette affaire.
Marine Béliard, votre Joaquin, vous l'avez trouvé comment?
Ah ben c'est pareil, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les failles des personnages, donc
ah ben lui il en a beaucoup.
Il en a beaucoup, donc tout va ressurgir, en même temps il a cette soif de justice, ben voilà, on comprend aussi son cheminement pour aller vers la police, et après voilà, on va le voir vivre, souffrir, enfin comme un, avec, c'est vrai que je pense que mes personnages sont...
J'espère ne rien trahir, parce que je crois qu'on le sait assez vite, ouais, il a quand même un blackout.
Oui, voilà.
Ça, je peux le dire.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui va le tracasser.
Il se passe un moment... Ouais. C'est quasiment début, oui, donc
oui,
je peux le dire.
Tout à fait.
Il se passe 8, 5, 6 heures où il ne sait plus ce qu'il a fait et qui correspondent à une heure qui est quand même très cruciale.
Exactement. Ou ouais, effectivement, sans dévoiler, puisque c'est le début où le personnage principal est décédé. Donc, en fait, voilà, il se demande ce qu'il a fait et vu... qui a pu se passer par le passé, il a peur en fait.
Et puis ça le met dans un malaise parce qu'il est obligé de mentir à cause de ça.
Au départ, oui, et après petit à petit, bon, il va se retrouver à mener l'enquête, à devoir aussi révéler finalement. Enfin voilà, je ne vais pas dévoiler la suite, mais...
c'est très compliqué de vous interviewer tous les deux. Alors on va écouter un peu de musique et vous retrouver juste après, je rappelle, Christophe Pénalan et Marine Billard, une Queen in New York, et Eden, l'affaire Rockwell. L'un est chez Rivage, l'autre chez Bien-Aimé. On vous redonnera tout ça après la pause musicale. New York has found a queen in New York, and never ending stories out there, and dreams of shooting stars from elsewhere, and movie pictures playing somewhere. Yes, I can see her in her soul, those dazzling eyes that shoot a hole, the firebird that seeks a goal, and ends in ashes to unfold. New York's found a queen in New York. I kiss the ground, a queen in New York. New York's found a queen in New York. I kiss the ground, a queen in New York. In the darkness of the night, we see her lose the will to fight. Through flights of highs that leave no ties, the hero stars to say goodbye. New York has found a queen in New York.
she finds. She seeks a place where she goes blind, where dreams of heaven turn to hell. Her love remains the rerun spell. New York is found a queen.
Et voilà une petite distorsion finale, Annika and the Forest, A Queen in New York, tiens, tiens.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
Alors Marine B, on est toujours avec Marine Béliard, autrice de A Queen in New York aux éditions Rivage, et Christophe Pénalan pour Eden, l'affaire Rockwell, pardon, aux éditions Viviane Amis. C'est l'émission de tous les dangers, en plus il fait froid, il fait chaud, on ne sait plus comment s'habiller. Marine Béliard, c'est très chic. Vous avez une bande-annonce avec votre roman et c'est ce qu'on vient d'entendre là.
Tout à fait.
C'est la musique que vous imaginiez pour votre héroïne ?
Alors moi, en fait, au départ, je voulais intégrer le texte d'une chanson du groupe de musique pour le faire vivre comme un vrai groupe, en fait. Et finalement, j'ai demandé à une amie, donc à un groupe de musique, Annika and the Forest, de m'aider pour le texte, évidemment, en anglais. Et puis, on est allé plus loin. Elle m'a dit, mais on va le mettre en musique. Donc, elle l'a mis en musique et son diffuseur lui a proposé aussi de faire un EP avec 4 morceaux. Donc, elle a créé 4 morceaux un petit peu dans l'ambiance de ces années-là. Donc, elle, c'est pas tout à fait ce qu'elle fait habituellement. Donc, voilà, ça lui a donné aussi un petit challenge. Elle a aussi changé de tessiture, voilà, un petit peu sa voix pour que ça
puisse retrouver un peu l'ambiance de l'époque.
Oui, et puis le personnage aussi, on imaginait cette voix-là en fait du personnage. Et effectivement, le titre éponyme Queen in New York, c'était l'idée de voilà le rêve de cette ville qui va être à la fois un paradis et un enfer. Et voilà, donc c'est tout ça qui se met un petit peu en jeu dans cette chanson. Et les autres morceaux en fait ont été pris aussi à. On a imaginé à d'autres époques du groupe, années 80, enfin voilà. Donc il y a une petite évolution, on a créé aussi une vraie fausse bio d'Elva.
Oui, et dans le livre, il y a même un QR code pour aller écouter.
Voilà,
hein,
tout à fait,
fin.
À la fin, voilà, exactement, exactement.
On peut lire le livre en écoutant la musique qu'aurait pu être...
Je conseille aux lecteurs, voilà, quand les gens me demandent, ainsi que les petits extraits de morceaux que j'ai mis tout au long du livre pour ambiancer les scènes, les morceaux de l'époque.
Christophe Pénalan, si vous aviez eu à faire un choix musical pour il me semble qu'il n'y a pas de musique dans votre livre. Alors, j'ai peut-être raté, mais je ne crois pas qu'il y ait de référence. Si vous en aviez eu, vous auriez aimé avoir... Qui vous aimeriez avoir comme bande musicien ?
Question très
oui,
difficile.
En plus, je ne l'avais pas posé avant. Là, je vous prends, je vous paye à froid. Bon, vous pouvez dire que vous ne savez pas, et puis ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Hein.
Non, bah, peut-être un rap de la côte ouest californienne, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une bande son, même si effectivement je l'ai pensé comme un livre, je pense avoir oublié la case bande son.
Il y a beaucoup ils sont beaucoup en voiture aussi, il y a beaucoup de poursuites en voiture, donc on pourrait très bien imaginer là qu'ils écoutent, alors je ne sais pas si on écoute de la musique dans les voitures de police, mais j'ai jamais fait de voyage.
Moi aussi, peut-être du rock survitaminé, effectivement, ouais, si, peut-être, ça pourrait bien aller.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, Christophe Benin, que dans votre roman, il y avait ces deux policiers. Je voudrais juste revenir à Marine Béliard et avec cette bande de 4 garçons qui sont peut-être dans le vent, on ne sait pas trop, qui viennent de Pennsylvanie. Vous avez, là encore, moi j'ai peu lu ça, vous avez décrit d'une façon très particulière une bande de garçons avec un regard féminin. Qu'est-ce que... pareil, on ne peut pas trop en dire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ça? Vous aviez envie de parler d'une autre masculinité, de c'est quelque chose que vous avez peut-être observé chez vos amis quand vous étiez à Rennes. Tout à l'heure, on va revenir à Rennes. On vient toujours à Rennes, finalement.
C'était plutôt l'idée. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être ce que moi, j'ai dû vivre, j'ai dû pomper dans des choses que j'ai vécues, mais voir un petit peu les relations entre eux et comment ça va se jouer, les attirances, l'amitié forte, voire l'amour, en fait, sans aller... Voilà. Je ne vais pas en dévoiler plus, mais je pense que voilà, mes personnages, c'est vraiment... je suis dans leur tête, dans leur psychologie, et les sentiments sont importants. Tout ce qu'ils vont ressentir, en fait, c'est important dans mon écriture.
Très bien. Alors, je reviens avec vous, Christophe Pénalan, parce qu'on a un peu parlé de la trame de votre récit, donc qui est une enquête. qui est quand même entrecoupé de récits de jeunes filles auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si vous pouvez expliquer pourquoi, qui sont sur une longue période. Enfin, non, vous ne pouvez pas trop raconter pourquoi, justement. Mais j'avais plutôt envie de vous demander pourquoi vous aviez intercalé ces épisodes. C'est pour recréer de l'attention? C'est pour, tenir le lecteur en haleine?
Exactement, c'est pour...
C'est se dire, il y a quelque chose, il y a un mystère, quoi. C'est plus compliqué que ça en a l'air.
Oui, tout l'enjeu, effectivement, c'était de mettre le lecteur sur plusieurs pistes, et effectivement, ces petites ellipses, puisque voilà, on commence dès les années 1980, nous laisse penser qu'un grand méchant est tapis dans l'ombre et qu'il sévit depuis des années aux États-Unis. Ça, on parle de plusieurs dates, mais plusieurs États également. Hein.
Oui, là encore, en vous lisant, il m'est arrivé de retourner en arrière parce que j'étais perdu. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends plus rien. Donc ça, c'est volontaire.
C'est tout à fait volontaire. Ouais. C'est tout à fait volontaire. C'est vrai que normalement, tout s'éclaircit à la fin.
Je confirme.
Et c'est vrai que moi, en tout cas, quand je lis un livre et quand je regarde un film, un thriller, notamment avec un twist final, eh ben, j'aime bien revenir en arrière sur des petits points que je n'ai pas forcément compris. Et c'est vrai qu'avec ce livre-là, la difficulté dans sa conception et aussi peut-être quand on lit, c'est que tout commence par la fin, finalement. En tout cas, tout est basé sur la fin. C'est vrai que c'était un risque. Hein, il fallait à tout prix éviter que le lecteur s'ennuie, en fait, avant les 50 dernières pages. C'était tout l'enjeu et j'espère l'avoir réussi. Mais effectivement, oui, oui. Pour ce faire, il fallait intercaler ces petites ellipses pour redonner du rythme au récit.
C'est ça veut dire qu'un roman noir, un polar, là je pose la question aux deux, c'est aussi une question de rythme. On parlait de musique avant, de rock, mais il y a aussi quelque chose comme ça à travailler, le rythme, c'est très important. Allez-y Marine.
Oui, je pense qu'effectivement, comme on disait Christophe, de ne pas perdre le lecteur qui ne s'impatiente pas ou qui le décroche, voilà, on est parti. Normalement, il y a quelque chose d'haletant aussi. On a envie d'aller jusqu'au bout, on devrait ne pas pouvoir déposer le livre pour aller se coucher. Enfin voilà, je pense que c'est aussi ça.
Alors, vos deux romans sont très différents. J'ai déjà dit, il y a des points communs. Il y en a certains que j'ai un peu forcé pour faire l'émission. Mais je vais révéler un truc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est que l'un comme l'autre, on pourrait résumer votre livre en disant que les apparences sont trompeuses. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'en ai déjà trop dit?
Non, tout à fait.
Vous pouvez
ça, moi,
dire
ça
plus,
me va parfaitement.
Vous ne pouvez pas en dire plus, en fait, l'un comme l'autre. Alors, je vais vous poser la question autrement, ou plutôt, je vais la compléter. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier quand on écrit un roman? Vous, Christophe, c'est votre premier... Mais j'imagine que vous avez sûrement dû avoir quelques brouillons avant. Et vous, Marine, vous avez déjà écrit un premier roman. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à écrire un livre comme ça où les apparences sont trompeuses et où donc il y a un twist? Et est-ce qu'à la fin, vous avez été obligé de tout reprendre pour cacher des indices qui auraient pu vous échapper? Parce que vous connaissez la fin quand vous commencez, j'imagine.
Oui. Et... Alors, effectivement, là...
En dire un peu, mais pas trop, jouer avec ça.
Oui, c'est ça. Et puis, comme effectivement, il y a de la réécriture, parfois on rajoute des scènes, donc il faut bien revoir ce qu'on a dit finalement avant, ce qu'on a dévoilé après. Il y a vraiment une construction, c'est assez... Voilà, il faut faut faire attention aussi à que ce soit bien équilibré, bien dosé.
Et vous, Christophe?
Oui, tout à fait. Non, je rejoins Marine sur ce point. C'est vrai que, alors moi, il se trouve que je connaissais la fin avant de me lancer dans l'écriture. Donc, je sais qu'on fonctionne tous différemment. Certains ont un plan précis, voilà. Mais c'est vrai que, comme dit Marine, c'est tout un travail de réécriture. On reprend certains passages et c'est fait de consort avec l'éditeur, évidemment, qui est très précieux là-dessus, parce qu'il a un regard, neuf, il a du recul. Et nous, c'est vrai, quand on est pris dans notre histoire. On a vraiment une idée sur la façon dont on veut le mener. C'est vrai que c'est un plaisir. C'est un plaisir, quoi. Alors, on a l'impression d'avoir toujours un petit temps d'avance hein, par rapport au lecteur et on le construit comme un casse-tête, en fait. Et c'est un plaisir ensuite de voir le lecteur jouer avec ce casse-tête.
Mais par exemple, vous avez retiré des choses ou vous en avez rajouté pour que quand même il y ait des indices après coup ou comment vous avez fait?
Un peu des deux.
C'est plus comme de la... Allez-y, pardon.
Un peu des deux, j'en ai retiré, j'en ai ajouté certains et notamment après mon passage aux États-Unis. Donc, mais oui, tout à fait. Alors, c'était vraiment à la marge, hein. J'ai pas du tout changé de place à un chapitre. C'est des petites
non, mais je
à la
pense
marge,
que
mais ça
c'est
demande un
parfois
travail
des.
vraiment de rigueur assez important.
Ouais, c'est souvent des annotations, par exemple. Je veux rien dire parce que j'ai trop peur d'en dire trop. Mais par exemple, il y a un trait de caractère, il y a des traits de personnalité de cette petite fille qui disparaît. Après coup, on comprend, mais voilà, on ne peut pas en dire plus, donc on ne va pas en dire plus. Et vous, c'est pareil, vous avez plutôt retiré ou vous avez rajouté, vous avez.
Alors, moi,
ou les deux pareils.
J'ai plutôt rajouté, mais c'était plus sur l'ambiance, enfin, des scènes plutôt de la ville, des personnages qui évoluent dans New York et aussi des scènes de jeunesse. Donc finalement, tout le travail avec mon éditrice. Et finalement, l'enquête, tout était déjà là. Après, c'était plus effectivement, faire attention comment le puzzle allait se remettre en place et de pas avoir donné des infos trop tôt, des choses comme ça. Mais j'avais déjà le fil et les personnages et je savais un petit peu où ça allait.
Et vous aviez des plans très précis l'un et l'autre?
Alors moi, j'ai un plan un peu, j'ai quand même un plan, je vais d'un point A à un point B. Après, moi, je fais des scènes, je pense à une autre scène, je la rajoute. Et parfois, dans les scènes, en fait, c'est comme une impro, mes personnages me surprennent parfois. Donc, je les laisse, ça vient et je vois un petit peu où ça va. Après, je recoupe, mais...
Vous, il y a la manière dont vous intercalez le passé avec le récit.
Oui, c'est ça.
C'est les moments où on revient dans le passé. Mmh. Ça, j'imagine, ça a dû être un gros travail de savoir à quel moment on revient. Vous pouvez pas revenir trop tôt.
Oui.
En arrière, parce qu'il ne faut pas trop révéler trop tôt
oui.
ce qui s'est passé.
Mais c'est ça, en fait. Et surtout quand on rajoute des scènes après, une fois qu'il y a déjà le premier jet, du coup, là, il faut être assez attentif. C'est effectivement de la rigueur, comme dit Christophe, de bien regarder ce qu'on a dévoilé, ce qu'on a dit, et puis ce qui va manquer, en fait. Mais ça se fait assez naturellement.
Vous, Christophe Pénalan, vous êtes très précis sur la topographie des lieux. C'était une volonté de décrire un pays. Enfin, un pays, une région.
Ouais, tout à fait. C'est plonger le lecteur dans une ambiance particulière. Bah, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, la Californie, on a un imaginaire, on se l'imagine d'une certaine façon. Il fallait à la fois appuyer, mais aussi parfois déconstruire cet imaginaire. Alors, la Bakersfield est un lieu qui existe, donc ça nécessite aussi une rigueur au niveau du relief, des montagnes qu'il y a autour, les paysages. Alors, il se trouve que, par contre, les noms de rues, là, les noms d'établissements, on change.
Le café n'existe pas, le fameux café.
Problème. Non, le café n'existe pas, l'école non plus. On doit changer les noms. Mais sinon, tout est vrai. C'est vrai que oui, en tout cas, moi, je pense que c'est important pour que le lecteur s'y croit vraiment. D'avoir un minimum de description, même si j'ai un style, je pense, assez direct quand même, mais quand même un minimum pour ne pas perdre le lecteur et lui montrer où il est.
Ah, on découvre quand même toute une face un peu d'une Amérique un peu miteuse chez vous. Enfin, miteuse, c'est pas très gentil.
Oui. Non, mais je vois totalement ce que vous voulez dire. Bah, c'est vrai que dans ces vallées-là, la Californie, c'est je vais réutiliser la formule de grandeur et décadence, c'est que à Los Angeles, là, une énorme mégalopole comme ça, et puis plusieurs kilomètres plus loin, on va tomber sur des chemins un peu désertiques, des vieux ranchs abandonnés. C'est ça aussi, hein,
des puits de pétrole.
Exactement, les puits de pétrole, le côté un peu rué vers l'or, des endroits qui sont totalement désuets, abandonnés. Californie, c'est ça aussi.
Et aussi des déserts et des montagnes. C'est ce qu'on découvre.
Exactement.
C'est ce qu'on découvre en vous lisant.
Exactement.
Hein. On n'a pas forcément ça à l'esprit.
La Californie est un état très vaste et il y a tout un tas de paysages différents. Le nord n'est pas du tout le même que le sud, mais effectivement, on a des vrais déserts. Hein, on n'est pas très loin de la vallée de la mort, dans la zone
du Nevada
que je décris, donc du Nevada, tout à fait. Et donc, on est sur une région assez aride, oui, tout à fait.
Marine Béliard, vous avez la topographie de New York, vous avez de la chance, elle n'a pas trop bougé, mais par contre, les immeubles ont bougé.
Oui,
que New York d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir.
Oui,
hein.
C'est ça, l'ambiance, et puis les lieux, c'est pareil. Moi, j'ai dû aussi retrouver des lieux, parce que effectivement, tous les lieux sont des vrais lieux. Pour le coup, là, je ne voulais pas passer à côté de ça. Donc, les gens qui m'ont donné un petit peu leur témoignage, j'ai fait des recherches pour bien situer aux bons endroits, les lieux de l'époque, même si maintenant, aujourd'hui, ils ont disparu pour nombre d'entre eux.
Ça, c'est quand même un peu une forme de perfectionnisme, parce que qui pourrait aller vous dire que
les
témoins de l'époque
qu'on
a plus tant que ça.
Je pense que c'est un peu obsessionnel, oui, pour que ce soit, se dire, voilà, on plonge, on va faire revivre une période, donc je voulais que ce soit tout à fait crédible.
Est-ce que c'est... avant de vous poser cette question, il se trouve qu'il y a un hasard qui m'a beaucoup fait rire. Enfin, je ris avec pas grand-chose parfois. J'écoutais ce week-end un podcast qui revenait sur l'histoire qui a inspiré Léa Slimani, son livre Fiction douce, qui est un fait divers. En fait, il s'est passé à New York, ce que j'ignorais complètement. Et alors, elle disait qu'elle l'avait transformé en France pour que ce soit plus proche d'elle, de son quotidien. Et est-ce que vous, ça vous amuserait de faire une version 2 de vos livres, l'un et l'autre, qui se passerait en France? J'avais envie de vous demander de nous faire Queen in Paris et puis une affaire Rockwell, je ne sais pas, qui aurait lieu dans le Massif Central.
Ah bah oui, ça vous amuserait tout à fait.
Mais est-ce que ça vous amuserait? Ou est-ce que cette histoire-là est finie? Vous avez envie de passer à autre chose maintenant?
Ah bah là, je ne sais pas si je le ferais, mais je vois que ça pourrait tout à fait. Quand vous parliez des années Palace, je vois très bien aussi cette période-là, 70-80, à Paris, évidemment. Je pense que ça s'y prête tout à fait. Moi, j'avais envie...
Une bande de gars qui viennent de la Mayenne, quoi.
C'est moi, peut-être moins sexy.
La Pennsylvanie.
Je ne sais pas.
Et vous, Christophe Pénavant? C'est pareil, l'histoire est terminée, vous allez passer à autre chose?
Oui. Voilà, c'est ça. Moi, un peu plus, c'est vrai que ce serait amusant, hein, mais voilà, sans trop en dire, le récit fait que ça ne peut que, entre guillemets, se passer aux États-Unis. il faudrait vraiment balayer très large, parce que ça, dans mon livre, on voyage un petit peu hein, aux États-Unis, finalement, avec les ellipses dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, il faudrait aller dans le sud, dans le nord, dans l'est, à Strasbourg, à Bordeaux. Enfin, ce serait assez compliqué, mais marrant, effectivement, tout à fait.
Est-ce que... Alors vous, c'est votre premier roman. Marine, c'est votre deuxième. C'est quasi un premier roman. Allez, on va dire. Est-ce qu'écrire un polar, c'est plus facile parce qu'il y a des règles ou est-ce que c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de contraintes? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? C'était juste que vous aviez envie de le faire. Ça vous a fait plaisir et mes questions n'ont aucun intérêt. Il est temps qu'on arrête.
Non, moi, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça s'est fait naturellement. Comme je disais au début, je ne pensais pas faire forcément un polar. Et ça a été un bon chemin, en fait, pour faire mener l'enquête par mes personnages. Et donc, moi, il n'y a pas eu vraiment plus de... Après, voilà, il y avait cette histoire effectivement, de tenir le lecteur en haleine, etc. Mais je pense que dans chaque livre, il y a ça aussi. Hein. Donc, non, moi, pas de contraintes.
C'est plutôt un plaisir.
Ouais.
C'est qu'un ce genre que vous aimez lire aussi?
Ah bah oui, j'en lis aussi, oui.
Et vous, Christophe Pénalant?
Moi, c'est tout pareil. Je n'ai pas forcément ajouté beaucoup de choses à ce qu'a dit Marine, mais oui, moi, je suis vraiment très friand de polar et je m'imaginais, c'est marrant, enfin, je ne m'imaginais pas forcément écrire autre chose pour mon premier roman. J'ai d'autres idées pour la suite éventuellement, hein, de qui ne sont pas des polars. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est particulièrement amusant. Ça demande de la rigueur. Je pense que c'est peut-être plus simple une fois qu'on a une trame de la suivre, alors de façon très scrupuleuse. Mais c'est un super exercice, en fait. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis journaliste. Et il y avait certains côtés, ça se rapprochait un petit peu de... Là, en tout cas, l'écriture journalistique me servait, notamment sur les faits divers.
Oui, ça ressemble à un récit de faits divers qui est votre quotidien, j'imagine. Christophe Pénalant, je rappelle que vous êtes l'auteur de Eden, l'affaire Rockwell, qui est apparu aux éditions Viviane Ami. Marine Belliard, vous êtes avec nous. Et vous avez publié Queen in New York chez Rivage Noir. Et Rivage Noir, qui a même une collection New York made in France, quand même. C'est donc spécialisé pour des auteurs français qui racontent des histoires qui se passent à New York, c'est ça?
Exactement, voilà, c'est ça. Le livre sort dans cette collection et je pense que c'est la troisième année. Enfin, voilà, c'est une collection assez nouvelle chez Rivage et donc ça correspondait tout à fait. À chaque fois, il y a une ambiance voilà, de polar, souvent avec une playlist musicale. Il y a des points communs dans cette collection.
Vous allez continuer dans le polar, vous?
Eh bien, j'ai plusieurs idées, mais effectivement, peut-être pas là, je sais pas. Là, j'ai une idée, c'est pas forcément du polar, mais je ne me ferme pas.
Eh ben, écoutez, merci à vous deux d'être passés par le studio de Radio Campus Paris en ce lundi. Après ce début un peu agité, on a réussi à faire l'émission. C'est formidable. Merci beaucoup.
Eh ben, merci, Christophe.
Merci à vous. Merci.
Normalement, il y a un générique qui part, mais sinon... Voilà, c'était La Relève, préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Nils, dont le surnom est Le Sauveur. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les premières de la saison. Vous retrouvez le programme de Radio Campus Paris à 19h, la matinale qui continue. Nous, on se retrouve la semaine prochaine exceptionnellement. On parlera de Jeux Olympiques et de féminisme. Bonne semaine, à la semaine prochaine.